Donc ça va être beaucoup plus modeste que ça. Donc nous, on est donc sociologue à l'École nationale supérieure des télécommunications, qui est à la fois à Paris, et Sophie Antipolis. Donc Julien et moi, on travaille à Paris, et Marc Relieu, qui est ici présent, est à Sophie Antipolis. Et ce qu'on va vous présenter, c'est issu d'un projet de recherche, en fait, qui s'appelle Mobile en ville, dans lequel on a étudié et on continue à étudier les usages des terminaux mobiles dans des situations d'activité ordinaire. Donc ça va des conversations téléphoniques sur les mobiles, aux sonneries musicales, à la télévision sur mobile ou à la visiophonie sur mobile. Je dirais qu'à travers ça, on s'est déplacé et justement on a commencé à regarder de plus en plus deux choses. L'une, c'est l'articulation entre interaction distante et puis contexte proximal, donc tout l'environnement des utilisateurs. Et deuxièmement, la question de la multimodalité, c'est-à-dire de l'interaction de tout ce qui, l'entrelacement dans l'activité de ce qui est de l'ordre du sonore, en particulier du visuel. Et ces questions, on est en train de les regarder de plus en plus près, c'est ça qui nous rapproche un petit peu, je pense, de ce qui est fait ici. Et en particulier, un des endroits où c'est le plus net, c'est la question de la visiophonie mobile. Et Julien, ici, a développé le premier corpus, à ma connaissance, de conversations visiophoniques mobiles. Et on s'amuse un peu avec ça, c'est ça qu'on va vous montrer. Est-ce que tu as vu pour les filmer ou pas? Oui, alors on a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas être filmé, hein, je ne sais pas, parce que pour des raisons de confidentialité, les données qu'on va vous montrer, les utilisateurs ne veulent pas qu'elles circulent, donc on ne peut pas... Voilà. Je te laisse la parole.
Oui, donc pour aujourd'hui, on va essayer donc de développer les différents espaces sonores donc des communications visiophoniques. Alors, je pense qu'on va pouvoir en aborder principalement donc trois niveaux donc d'espaces sonores qui sont en fait inextricablement liés, à savoir donc la voix des participants donc qui sont engagés dans des interactions donc visiophoniques. C'est un type d'interaction focalisée, pour reprendre les termes de Goffman, pour lesquels donc il compte vraiment donc sur une écoute mutuelle et sur l'intelligibilité. Donc ça, c'est un premier niveau d'espace sonore, celui de l'interaction, je dirais, sachant qu'il faut aussi compter donc avec la médiatisation donc d'un réseau, le réseau 3G, donc qui supporte la visiophonie mobile, qui présente quelques caractéristiques, à savoir des phénomènes de latence. Donc au niveau du délai de transmission simplement de la voix, en moyenne il y a 4 dixièmes de seconde entre le moment où l'on parle et le moment où l'autre peut entendre, donc ça génère des problèmes de coordination. Et il y a aussi par exemple des latences entre la voix qui précède en fait l'image. Espace sonore, donc troisième espace sonore, c'est celui, je dirais, des environnements d'usage. On s'intéressera en particulier aux environnements publics, en tant que ce sont des environnements qui ne sont pas forcément aisément maîtrisables par essence, mais maîtrisables d'un point de vue plus pratique. En tout cas, il conviendrait de distinguer donc une série de bruits humains ou non humains, donc issus d'environnements mobiles, on pourrait plutôt peut-être dire des territoires non fixes, et donc qui peuvent être découverts, reconnus, etc., etc. Donc en fait, on va s'efforcer d'examiner comment les interlocuteurs donc façonnent leur tour de parole successif par rapport donc à des conditions acoustiques. Donc ça peut être des bruits ou des fonds sonores par exemple, éminemment variables. Donc cela bien sûr avec l'image qui implique donc l'utilisation probable d'autres types de ressources pour organiser l'interaction. Donc ça peut être des ressources donc non verbales, telles que les regards, les expressions faciales, les orientations, etc. Des cadrages qui se modifient de façon dynamique, on le verra dans le cours des échanges, ils ne restent pas fixes. Et qui eux-mêmes, donc la façon dont on tient en fait le mobile devant soi pour garantir des cadrages corrects ou non, qui modifient donc conjointement les capacités de perception donc par rapport à la voix qu'on entend par le haut-parleur du mobile, mais aussi par rapport à la voix, à la distance entre la bouche et le microphone. Donc ça aussi, il y aura des variations qui vont rentrer en ligne de compte. Donc j'insiste sur des espaces sonores qui sont donc de nature différente et mobile, comme j'ai dit tout à l'heure, en précisant donc que ces lieux ne sont pas fixes et sujets à variation. Donc ça, c'est une dimension assez importante, parce que parfois on a tendance à associer des ambiances ou des fonds sonores à des lieux, alors que sur une période de quelques minutes, voire encore pire, de quelques heures, hein, bien sûr, il y a des variations de ces environnements sonores. Donc, ils sont vraiment contingents, peut-être aussi sensibles. Donc, au niveau de l'entre-deux conversationnel, donc, j'insiste hein, donc, sur l'attente d'intelligibilité, hein, au premier rang desquels hein, figure vraiment donc la parole. Donc, tout cela rentre en ligne de compte dans les interactions, avec un entrelacement donc, de ressources verbales, non verbales, de cadrage, hein, pour gérer et organiser les espaces sonores des communications visiophoniques. Et ce qu'on aimerait bien toucher vraiment ici, ce sera de montrer justement cette relation indexicale entre des actions, des interactions, des lieux et la façon vraiment dont ils émergent dans et pour l'interaction. On essaiera aussi d'aborder donc, l'équation son-silence, qui n'est pas forcément donc, évidente. Donc, je propose trois exemples, à savoir que les locuteurs vont rechercher des environnements bénéficiant de conditions acoustiques favorables. Donc là encore, hein, pour garantir, pour favoriser l'écoute mutuelle. Mais en retour, hein, ces mêmes lieux de communication, et en particulier donc les lieux publics, supportent plus ou moins bien précisément donc la parole. Et de cela, on en a parlé jusqu'à hier soir d'ailleurs, c'est que les téléphonistes mobiles, et là je parle pour la conversation et pour le développement de la technologie mobile, il y a une controverse encore assez vive hein, qui a vraiment pointé hein, le caractère trop public des conversations mobiles et bien souvent taxé de privé. Donc ça, c'est un format de communication relativement nouveau. Un format de communication aussi qui tend à être particulièrement donc visible, audible et dénoncé éventuellement par la critique. Et donc, dernier point donc sur le silence, cette fois-ci, il me semble aussi important d'indiquer dès ce stade hein, qui peut revêtir un différent statut selon la place qu'il occupe durant une interaction conversationnelle, mais aussi hein, de travailler peut-être sur le silence en tant qu'il peut être aussi le fruit hein, d'une interaction qui, elle aussi, est basée sur une dimension visuelle. En termes de méthode, on a donc étudié des forums de discussion. En premier lieu, c'était pour recruter des visiophonistes hein, qui ne sont pas légion. A priori, il n'y aurait que 4%, je crois, de la population qui aurait testé. Donc ce n'est qu'un test, hein, ce n'est pas vraiment des utilisateurs réguliers. En tout cas, on les a trouvés, dénichés sur les forums de discussion. On a fait une analyse au passage, je dirais, de ces forums, puis des entretiens pour cerner les usages avec eux. Et après, l'objectif vraiment ultime, c'était de leur prêter différents dispositifs d'enregistrement vidéo. Donc, il y en a deux. La première photo montre, donc c'est un mobile hein, disposant d'une sortie audio-vidéo. Donc, on enregistre le flux vidéo directement sur un Arcos. Tandis que pour des raisons techniques, on était obligé de greffer un micro-cravate à proximité du haut-parleur. Donc voilà, c'est un bricolage qui est en passe d'être amélioré. On travaille dessus pour supprimer au moins les fils. Le second dispositif, c'est des lunettes caméra. Donc c'est peut-être, l'image est peut-être un peu petite. Donc on dit sans fil parce que la transmission est sans fil hein, des lunettes jusqu'à l'arcos. Mais il y a quand même des fils en fait, jusqu'aux émetteurs. Et donc là encore, c'est un dispositif qui serait amélioré. Donc je propose hein, de rentrer directement dans le vif du sujet en passant donc directement une première séquence vidéo qui va permettre un peu de saisir hein, le cas donc, d'une interférence sonore. C'est une notion développée par Goffman, donc de voir comment un bruit, une interférence sonore, donc revêt vraiment pratiquement ce statut dans une interaction visiophonique, sachant que je qualifie d'avance ce bruit, c'est un bruit donc qui est court et reconnaissable. Donc je passe d'abord la vidéo et on pourra en discuter ensuite.
Attends, 2 secondes, il y a la sonnerie. Je suis bientôt arrivé de toute façon. Donc
c'est peut-être trop bref, je la repasse. Une...
Attends, 2 secondes, il y a la sonnerie. Je suis bientôt arrivé de toute façon.
Donc certains d'entre vous hein, se diront peut-être qu'il n'est pas vraiment utile d'utiliser des matériaux vidéo pour se dire comment que le déplacement du mobile dans la plupart des lieux susceptibles d'être fréquentés au quotidien hein, s'accompagne d'une augmentation mécanique hein, des chances d'interférences sonores. Donc c'est assez vrai. Par contre, hein, le type d'analyse qu'on propose, qui est basé donc sur la vidéo et sur la possibilité finalement de retranscrire infiniment les interactions, offre la possibilité d'aller plus loin justement dans la reconnaissance des façons dont un bruit acquiert donc un statut d'interférence ou les façons aussi dont un bruit, par exemple, au niveau sonore équivalent, va constituer par exemple une ressource pour des développements thématiques. Hein. On peut dire dès à présent que vraiment ce statut d'interférence est produit et il n'est pas en soi synonyme d'interférence ou de toute autre chose. Donc c'est vraiment ça qu'on souhaite montrer, donc avec des transcriptions détaillées. J'espère que vous pouvez lire un petit peu. Donc l'idée, hein, c'est vraiment d'introduire donc un système de symboles et d'annotations relativement donc autour de paroles qui sont transcrites. Donc l'interférence, elle est figurée par des X, hein, c'était donc un signal sonore d'une porte de tramway qui se ferme. Si vous avez des systèmes d'annotation plus précis, je suis preneur parce que les X, c'est un peu ce qui se fait de plus basique. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc l'interférence, hein, débute à la ligne numérotée 24, et on voit donc quelques dixièmes de seconde après qu'elle est débutée, hein, que A prend la parole pour suspendre, hein, donc l'interaction. Donc c'est le premier segment de la ligne 26, hein, attend deux secondes, là qui revêt vraiment un statut d'interruption et de suspension de l'interaction en cours. Donc dans la seconde partie du tour de parole, on voit que cette fois-ci, il y a l'identification de la source de nuisance sonore. Hein, donc le segment, il y a la sonnerie là. Donc ça, c'est un premier niveau de traitement, je dirais, conversationnel d'une interférence. Et la transcription permet aussi de voir donc les orientations, l'orientation de A. Donc A, c'est celui qui porte les lunettes caméra. Et donc on peut voir que lorsqu'il commence donc à introduire, enfin générer la suspension d'interaction, on voit qu'il y a un mouvement d'amorce, donc c'est figuré par le premier smiley, je ne sais pas si vous pouvez le voir ou pas. En tout cas, c'est le rond, on va dire, qui est associé à un A, hein, en fait, qui signale donc une modification, enfin l'amorce d'un mouvement de tête. Et donc ce mouvement, il est A, c'est pour ascendant, et la modification donc de l'orientation de la tête atteint son point maximum au niveau du Yala sonnerie. À ce niveau-là. Donc le point maximum, c'est l'extrait vidéo qui se trouve en bas, hein, qui est dirigé vers la source de nuisance sonore. Et donc pratiquement après donc, la suspension et l'identification donc, de la source de nuisance, l'interférence sonore donc, continue et là elle ne parle plus. Par contre, on voit qu'il y a un silence, donc, hein, c'est la fin en fait de l'interférence sonore. Et pendant ce silence donc, de une seconde, on voit qu'il y a un mouvement de retour, donc c'est le petit R, hein, qui signale donc un mouvement donc, de tête, cette fois-ci qui se réoriente, je dirais, vers le mobile. Donc le silence, hein, s'accompagne d'un mouvement de retour vers le cadrage mobile. Et en fait, ce moment précis, hein, où A va de nouveau être en position initiale face au mobile, en mode portrait, hein, qu'il peut reprendre la parole. Donc il semble que c'est assez intéressant de voir justement comment, hein, les participants, et notamment en particulier donc A, hein, traite le bruit comme étant une interférence, donc en mêlant donc, des séquences conversationnelles, des tours de parole, couplées donc avec une modification de l'orientation de la partie haute du corps. Et probablement aussi, évidemment, du regard, hein, qui sort du foyer, du cadre interactionnel. Et la technique aussi du laisser-passer l'interférence, à savoir, on attend un silence local pour pouvoir se réengager dans la conversation. Donc cette fois-ci, je vous propose de visionner une autre séquence qui présente cette fois-ci donc des conditions, je dirais, extrêmes, hein, au niveau acoustique. Donc je la passe d'abord et ensuite je développerai un peu certains points. On augmente, c'est là pour augmenter. On est peut-être déjà à fond.
Je t'entends pas, Tigger. encore dans le métro.
T'es où là exactement? T'es où?
Hein?
T'es où là? T'es où là?
Franchement, tu sais quoi, Tika, rappelle-moi en normal, parce que là j'entends même pas et ça sert à rien. Y'a pas de problème. Tu veux?
Elle est pas mal celle-là. Donc je liste rapidement les principales caractéristiques de l'appel. Donc des très mauvaises conditions acoustiques, donc c'est des contextes, hein, c'est métro et métro, donc c'est effectivement ce qui peut se faire de pire. On se demande même pourquoi ils ont tenté l'appel visio. Qui est aussi donc aggravé, hein, j'en parlais tout à l'heure, hein, par l'absence d'oreillettes, hein, c'est un accessoire donc indispensable, hein, normalement pour téléphoner depuis des environnements particulièrement bruités. Mais c'est aussi à double facette, dans la mesure où c'est aussi un moyen de parler moins fort et de moins gêner l'entourage. Donc les problèmes d'écoute, hein, sont constants. Il y a beaucoup de morceaux de tours de parole ou de tours de parole entiers qui sont parfaitement incompréhensibles. J'ai pas compté le nombre de requêtes et de demandes de répétition de segments ou des tours de parole, donc, soit pour entendre, soit pour se faire entendre. Des silences, hein, parfois assez longs, hein, constituent donc des absences notables, génèrent des troubles. Il y a des dénonciations officielles, hein, des conditions, enfin du lieu de l'appel, hein, à savoir qu'on traite vraiment les problèmes d'écoute. Ils sont vraiment c'est pas des tentatives de résolution via des requêtes ou des demandes de répétition, mais c'est vraiment des dénonciations des conditions acoustiques. Hein. Alors, vous avez peut-être aussi noté donc la proposition de rappel en normal, hein, l'expression en normal revient assez souvent d'ailleurs dans le corpus, hein, ce qui est assez intéressant pour un peu saisir le statut, je dirais, le statut actuel peut-être de la communication visiophonique par rapport à tous les autres modes de communication. Il y a des choses donc plus normales, et la fin de la conversation est aussi marquée par une clôture qui n'est pas vraiment négociée. Donc ça, je reviendrai un peu plus en détail là-dessus à partir des transcriptions. Donc voilà pour les principales caractéristiques, hein, qu'on peut aborder de façon un peu plus détaillée, donc en examinant tout d'abord donc l'ouverture de la conversation, qui commence de façon, je dirais, presque normale, à savoir qu'après donc la sommation, enfin la sonnerie, succède, donc il y a la mise en image mutuelle qui est créée par le dispositif, hein. Et donc le premier silence de 1,7 secondes qui débute vraiment l'interaction est le théâtre d'une période de regard mutuel. Donc ça, c'est une configuration typique des appels visiophoniques où il y a d'abord donc une période de regard mutuel. Donc le premier tour de parole est constitué donc d'un terme d'adresse, hein, mon petit bébé, donc là qui offre la possibilité à l'autre de poursuivre et de s'engager effectivement dans d'autres séquences. Hein. Donc B, ligne 5, prend elle aussi la parole, mais pour formuler une requête, hein, une demande de localisation, probablement orientée par sa capacité à voir l'arrière-plan visible à l'écran. Donc elle pointe un contexte, un lieu d'appel particulier, à savoir le métro. L'INSIS commence à répondre, mais son tour de parole est marqué, donc c'est le premier élément qui montre qu'il y a un problème d'écoute. Le problème d'écoute, en fait, c'est tout simplement un segment incompréhensible, transcrit par INC, qui est suivi donc d'un silence. Et si on en juge par le halo composant la ligne 8, ce segment incompréhensible plus le silence de la ligne 7, démontre que ce halo est directement lié donc, à un problème d'écoute. On ne sait pas encore forcément les raisons, mais manifestement, donc, B n'a pu saisir donc, la fin du tour de parole de A à la ligne 6, et le silence constitue un trouble supplémentaire. Donc le halo se présente comme une forme de réouverture, je dirais, de l'interaction sur un mode téléphonique. L'item halo est assez classique des conversations téléphoniques. Voire même plutôt peut-être d'une sommation en fait qui vraiment sélectionne le locuteur suivant pour alimenter, je dirais, l'espace conversationnel. Et à la place de cela, en fait, on note un silence qui est attribué à A de près de 2 secondes à la ligne 9. Donc B à la ligne 10 réitère en fait sa sommation en reprenant donc le terme d'adresse TBB. Et donc là, on a une forme de réponse, mais prenant la forme d'une requête, qui est tu m'entends, et qui là donc continue donc à manifester donc des problèmes d'écoute qui sont vraisemblablement réciproques. Donc cette requête a priori donc sélectionne B au tour suivant, mais on peut lui attribuer donc un silence de 3,2 secondes. Silence pendant lequel les locuteurs vont créer une brève période de regard mutuel, mais et A et B, donc c'est le AB entre parenthèses, vont rapidement se désaligner par rapport à l'écran du mobile et naturellement aussi à la caméra. À la ligne 13, on voit qu'il y a un autre type de requête qui projette un développement, donc le segment cahier des charges est incertain. Mais vraisemblablement, tu as ton projette une requête à laquelle devrait peut-être répondre B. Elle a une 15 en fait, c'est la première fois où elle traite vraiment officiellement, je dirais, du problème d'écoute en disant j'entends mal. Donc cette ouverture condense quelques séquences qui montrent à différents niveaux quels sont les problèmes actuels d'intercompréhension. Et en fait, ils vont jamais être délaissés pendant tout le reste de la conversation. Donc j'ai isolé quelques séquences clés sur lesquelles il faudrait que je passe assez rapidement. Donc pour la première transcription se trouvant en haut, on voit par exemple qu'il y a des séquences de type une requête, t'as dit quoi, suivie de silence, donc attribuable à l'autre relativement long, c'est-à-dire 9 secondes, un peu plus de 9 secondes et demie. Donc clairement là c'est un silence qui est attribuable et qui constitue donc une absence dans la conversation. Là encore on peut aussi remarquer que les périodes de regard mutuel sont extrêmement brèves. Il y a le premier smiley qui environ une seconde seulement de regard mutuel avant qu'une B détourne la tête. À la ligne 56, on voit par exemple qu'il y a une première partie de paire qui est une requête, et où là exactement, à laquelle succède une autre requête qui est quoi, et donc qui projette dans un troisième tour une répétition de la première requête. À la seconde transcription, on voit que la technique du parler fort, ce sont les items mis en majuscule, est aussi utilisée avec un succès relatif, notamment pour la ligne 72, où un silence succède à l'injonction répète, et où une reformulation de la demande de localisation initiale est délivrée donc à un niveau sonore relativement fort. Et par contre, elle sera satisfaite, mais elle n'est pas transcrite ici. Et j'en arrive maintenant donc à la troisième transcription donc qui est l'approche finalement de la clôture. On voit donc à la ligne 78, on peut constater donc une proposition de rappel à laquelle en fait B ne répond pas. C'est la ligne 80, on peut noter donc un silence après une première proposition de rappel. Donc ce silence est vraiment traité comme une absence une nouvelle fois par B, hein, qui redit petit bébé pour obtenir peut-être pas une réponse, mais au moins une réaction de son partenaire d'interaction. Et après donc cette requête, 0,3 seconde après, hein, A donc raccroche, met un terme brutal à la communication. Alors qu'en règle générale, hein, pour aboutir à la clôture définitive de la conversation, il y a tout un travail interactif qui se fait pour vraiment mettre un terme aux contributions successives des locuteurs. Donc l'ensemble de ces séquences conversationnelles donc, montrent hein, des problèmes d'intercompréhension importants qui ont un prolongement en fait, au niveau visuel, car donc, l'un et l'autre hein, mettent en place ce que j'ai appelé donc, des parades corporelles qui visent à favoriser donc, la réception de la parole ou l'écoute de la parole, donc, que ce soit donc, pour parler ou pour écouter, mais aussi pendant les périodes de silence. Donc j'ai mis quatre configurations types donc, que peuvent adopter donc, les participants à différents moments de la communication. Donc le premier extrait vidéo montre un bout d'oreille qui est disposé au plus près du mobile pour favoriser l'écoute, tandis que la jeune femme à ce moment-là en fait, n'offre pas d'image particulière, car en fait ses cheveux, elle a l'oreille collée au mobile et ses cheveux masquent complètement la lumière et ça génère donc un écran noir. Deuxième configuration, on voit en fait, elle vient juste de se relever pour rétablir un contact visuel mutuel auquel on pourrait s'attendre dans ce type d'interaction, mais ce compagnon est quant à lui suffisamment penché pour offrir simplement l'arrière-plan du métro. Troisième configuration, cette fois-ci, c'est le jeune homme qui parle, donc la bouche au plus près du microphone, mais cette fois-ci, il offre son front, enfin une partie de son front à voir, tandis que la jeune femme utilise donc la même technique et offre un écran noir. Quatrième configuration, et l'un et l'autre sont suffisamment penchés finalement pour qu'il n'y ait aucun élément de leur corps visible à l'écran. Donc on comprend mieux pourquoi donc B, à un moment de la conversation, hein, propose de se rappeler en normal. Donc j'insiste plus donc, sur les conditions acoustiques défavorables, même si c'est marqué. Pour noter donc la quasi-impossibilité hein, de développer des séquences conversationnelles, donc la formulation n'est pas forcément la meilleure. Il y a bel et bien des séquences conversationnelles, mais qui visent vraiment à établir des conditions normales de conversation. Il y a quand même des séquences, mais pas les séquences, pas des développements thématiques, par exemple. Donc la mise en place des parades, on les a vus, hein, qui limitent les périodes de regard mutuel. Alors, le logiciel d'indexation des vidéos que nous utilisons pour faire les transcriptions hein, permet de faire de produire des indicateurs statistiques précis sur justement les différentes périodes de regard mutuel et sur d'autres indicateurs d'ailleurs. Et donc pour cette communication-là, donc au total, 24% seulement de la communication est marquée par des périodes de regard mutuel cumulées. Et en fait, donc 75% de la communication est marquée par le fait qu'au moins un des participants ne regarde pas l'écran. Donc c'est assez important et on était assez étonnés de constater ces chiffres-là. Et alors celui qui est quand même assez marquant, c'est que les périodes pendant lesquelles ni A ni B ne regardent l'écran, donc en temps cumulé, hein, est sensiblement supérieure aux périodes de regard mutuel. Donc des conditions absolument épouvantables. Et donc la conclusion de cette séquence, hein, c'est de dire que les efforts hein, consentis, les parades corporelles, les efforts consentis pour améliorer l'écoute, hein, se payent d'une certaine façon par l'entretien d'une écologie œil à œil, hein, qui devrait a priori constituer une interaction basée sur la vidéo. Donc à présent, je vous propose de regarder une autre séquence qui est qui se déroule dans des conditions beaucoup plus favorables. L'appel est reçu, donc je ne vais pas le dire, en fait, c'est traité. Donc je vous laisse le découvrir et je développerai donc ensuite.
Comment le métro? Voilà, je raccroche alors.
Donc je reprends un peu pas à pas, hein, l'ouverture de la conversation qui est assez intéressante, hein, dans la mesure où on retrouve donc notre période, hein, de regard mutuel de 1,2 secondes, vraiment juste après l'ouverture de la conversation. Et cette période de regard mutuel, hein, la première production verbale dans l'interaction, c'est un rire, hein, qui est vraiment donc basé sur l'entrée donc en contact visuel. Hein. Donc ce rire, hein, est accompagné d'une salutation qui est à peine en fait distinguable et d'une demande de ça va. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de voir comment donc c'est à partir de la ligne 8, hein, introduit donc des séquences de localisation. Donc dans un premier temps par une requête ouverte et assez classique, hein, t'es où, à laquelle ne répond pas immédiatement B. Donc on ne peut pas vraiment s'avancer pour dire, hein, si oui ou non est en mesure d'entendre. Car en fait, hein, pendant le silence de 7 dixièmes, hein, qui lui est attribué, il fait des grimaces en fait à son interlocutrice, hein, ce qui déclenche aussi donc à la ligne 10 un nouveau type de rire. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de voir donc il y a une première demande de localisation donc qui est une question ouverte, et à partir de la ligne 12 qui se fait beaucoup plus précise et fermée. C'était dans le bus, pas de réponse. Et ligne 14 surtout. Non, c'était dans le métro et après t'es dans le bus, donc il y a une erreur de transcription. Mais en tout cas, donc là encore, hein, les images visibles à l'arrière-plan, a priori, donc offrent des possibilités de faire des inférences sur les lieux de réception ou de l'appel. Donc en tout cas, B à la ligne 15 valide effectivement la demande de localisation produite par A. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est de noter à la ligne 17 comment la vérification de cette localisation aboutit à une proposition immédiate de clôture de la conversation. Donc ligne 17, hein, ben alors je raccroche. Alors. Donc ça montre aussi, hein, comment donc les participants ont une connaissance vraiment des lieux de communication et comment la visiophonie peut ne pas se prêter précisément au contexte bus. Donc finalement, ils ne vont pas s'engager immédiatement dans une section de clôture, ils vont développer d'autres séquences conversationnelles qui présentent d'autres intérêts. Donc je me prépare. Hop.
Accroche alors. Ah ouais, ça me fait rire, dans le bus, c'est trop bon.
Pourquoi?
Hein?
Je crois bien.
Hein? Je suis chez moi au magasin. Je suis au magasin. Je suis au magasin, photostation.
D'accord.
Ouais.
Pourquoi? Pour ça, nation?
Non, ah, je vois que ton mec, c'est trop bon. Je te rappelle tout à l'heure. Hein.
Comment?
Je te rappelle tout à l'heure.
Pourquoi?
Mais parce qu'en visio, comme ça, c'est nul. Je te vois pas, là. C'est nul. Je vois que ton œil.
Tu vois appelle-moi.
Je t'appelle tout à l'heure. Hein?
Allô? Tu m'appelles dans combien de temps?
Je sais pas, je vais voir. Dans 5 minutes.
Comment?
Je t'appelle dans 5 minutes.
Hein?
Je te rappelle.
Tu rappelles?
Oui, je te rappelle.
Ok.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, ouais.
Elle est bien aussi, celle-là. Donc on a pu voir qu'il y avait une nouvelle fois donc l'utilisation de la technique du parler fort. Et ce que je trouve vraiment plus intéressant encore, c'est de voir finalement comment donc des problèmes d'écoute, notamment de la personne jointe, hein, deviennent traités dans des séquences portant plutôt sur l'apparence visuelle. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, donc c'est signé donc par la première flèche. Pour résumer, en fait, donc, l'interlocuteur se rapproche du mobile, soit pour parler, soit pour écouter, parce qu'il y a une pression, en fait, la coprésence du bus limite vraisemblablement ses possibilités de parler plus fort Et en fait, la jeune femme thématise justement ce rapprochement lié à un problème d'écoute. Elle thématise cela en disant « je vois que ton nez », donc ce qui génère une nouvelle fois donc du rire. Et le même type de séquence est développé ensuite donc à partir de la ligne 94, où elle dénonce les conditions de la visiophonie en disant « en visio comme ça, c'est nul », et dans un second temps, en disant « je vois que ton œil ». Donc il y a les deux extraits en fait, vidéo donc, associés à ces deux types. On parle d'effet loupe finalement, où ce rapprochement donc, génère des effets de grossissement qui deviennent des objets conversationnels. Donc ça c'est intéressant de voir justement comment contraintes sonores locales, contraintes d'écoute mutuelle interactionnelle et cadrage en sont vraiment compris dans une relation indexicale. Et on a aussi un peu plus loin, donc aussi un tour de parole qui est assez discret dans la séquence, mais B signale aussi qu'il ne peut pas parler, donc ce qui vérifie d'une certaine façon l'idée selon laquelle il se trouve face à des contraintes de production sonore liées à la coprésence publique du bus. Donc on peut résumer un peu les deux séquences au travers de deux aspects. Donc que ce soit donc un environnement bruyant tel que le métro, ou un environnement ne supportant pas tellement l'augmentation du volume de la voix. Donc ça génère des problèmes de compréhension des tours de parole dont les participants cherchent à surmonter en fait avec des séquences conversationnelles de type parler fort, des requêtes, des répétitions, des propositions de rappel, etc. Et aussi donc avec des parades de corporelles, et en particulier donc bouche ou bien oreille collée au mobile, selon qu'on parle ou selon qu'on écoute. Donc ce travail en fait modifie le format préférentiel de cadrage, en fait c'est le portrait. Donc l'impossibilité de produire une image, le portrait attendu, peut justement susciter des séquences spécifiques où on dénonce finalement les effets de grossissement. Donc ceci a aussi des conséquences sur la durée des périodes de regard mutuel. Donc j'ai rappelé au travers du premier graphique la proportion de regard mutuel de la première communication du métro. Et pour cette seconde communication, donc celle dans le bus, on voit que la proportion n'est pas du tout identique, les conditions acoustiques n'étant pas les mêmes et surtout beaucoup plus favorables, même si elles sont encore une fois traitées dans l'interaction. Donc en conclusion, je pense qu'on peut discuter de la distinction bruit-fond sonore en tant que ça constitue donc une contrainte plus ou moins importante pour le déroulement de l'interaction distante, où se mêlent voix, images et cadrage. Donc du point de vue de l'interaction, il s'agit d'un problème pratique à résoudre, donc pour une interaction de type focalisé, et donc qui puise dans des ressources verbales et non verbales, qui sont vraiment inextricablement liées. Ceci amène aussi à se poser la question donc, de la vulnérabilité, pour le dire à la façon de Goffman, de l'entre-deux visiophonique. Alors on a étudié des corpus de conversation téléphonique traditionnels et il semble effectivement que l'entre-deux visiophonique soit beaucoup plus sensible aux interférences sonores. Donc j'ai listé les principaux points. Donc c'est d'abord un périphérique, le périphérique indispensable qu'est l'oreillette, mais qui ne bénéficie pas en fait de la même portabilité, je dirais, que le mobile. En gros, que ce soit dans les entretiens ou dans les données qu'on a pu récolter, il apparaît que les participants n'ont pas souvent les oreillettes. En fait, par rapport au mobile, il semble que ce soit un accessoire qui soit beaucoup moins donc portable, pas toujours à côté de soi, pas toujours facilement mobilisable, facilement connectable, par rapport notamment lorsqu'on est appelé. Donc au niveau de l'accessibilité publique et le déplacement du mobile dans la plupart des lieux du quotidien, là l'enjeu est, je pense, à peu près identique à celui de la conversation téléphonique traditionnelle. Et on a vu par exemple qu'il y avait des coprésences, des régimes de coprésence publique qui limitaient les possibilités de s'engager dans des conversations distantes. Par contre, élément de distinction important, c'est que le réseau 3G n'est pas le même que pour la voix uniquement. Donc il y a des problèmes de débit qui est en fait tout juste suffisant pour garantir le passage de la parole, des problèmes de latence, donc qui aggravent en fait les chances, je dirais, d'exposition sonore. De la même façon, on n'a pas abordé aujourd'hui de séquence sur ce point-là, mais il faut savoir que si trop de sources sonores sont captées par le microphone, ça génère en fait un silence de saturation. Donc le microphone ne fait pas distinction entre les bruits humains, non humains, il prend tout, et en fait ça peut générer des silences qui constituent vraiment là encore donc des troubles, sachant que ni l'un ni l'autre des interlocuteurs ne sait lequel doit reprendre après ce type d'événement. Donc en règle générale, ils se remettent à parler ensemble, et ça régénère donc un silence. Donc faire face, c'est pour signifier que l'image pourrait constituer une ressource importante justement pour négocier ces problèmes d'écoute, mais qu'en fait les différentes techniques corporelles qu'on a pu identifier limitaient au contraire les possibilités de contrôle visuel mutuel. Donc cela souligne un entrelacement de ressources conversationnelles, visuelles, corporelles, filmiques, donc qui vise à préserver et organiser un foyer mutuel d'attention par rapport à différentes espèces d'espaces sonores, pour reprendre la formule de Perec. Donc par rapport à ce qu'on a dit hier et aussi aujourd'hui, c'est entré en résonance, je dirais, avec la qualification des flux audio, et notamment les flux réels, virtuels. Et j'ajouterais aussi, l'intérêt c'est aussi de voir les façons dont ils sont vraiment donc perçus et traités en situation. C'est tout l'intérêt justement des données vidéo. On pourrait ouvrir cette réflexion sur trois niveaux donc, qui sont fondamentalement liés, en tout cas. Donc, un niveau local, je dirais, du son. On a pu voir qu'il y avait des environnements sonores respectifs donc, qui sont vraiment de nature changeante et qui sont aussi conjointement mutualisés dans l'entre-deux visiophonique. Et que cet espace, donc, ce premier type d'environnement sonore local, concernait bien évidemment aussi les autres co-présents qui développent d'autres types de perceptions par rapport à l'activité visiophonique en particulier, mais par rapport à un monde sonore, je dirais, environnant. Donc ensuite, le deuxième niveau, donc, ce serait plutôt au niveau distal ou distant, cette fois-ci de vraiment pointer la médiatisation de la voix par un réseau donc, possédant des caractéristiques propres, donc je ne répète pas, mais c'est le phénomène de latence. Et aussi donc un prolongement visuel évident, c'est surtout ça qu'on souhaitait mettre en relief aujourd'hui, entre les modes de perception donc des mondes sonores qu'expérimentent et qu'organisent donc conjointement les visiophonistes.